Dans le cadre d'un atelier radio avec le lycée Jean Monnet de Crépy-en-Valois, Frédéric Jourdain et Frédéric Gis, animateurs de RVM, ont encadré les élèves de la classe de seconde 8 avec leurs professeurs messieurs Paul Sely et Tavernier pour réaliser des feuilletons sonores inspirés d'une bande dessinée Adèle Blanc-Sec de Tardy. Nous vous proposons de les écouter.
La bête à Paris. Votre rendez-vous mystérieux chaque semaine sur RVM 93.7, épisode 1, avec Elodie,
Florian,
Inès,
Léa,
Emma,
Léo
et Philippe,
George.
À Paris, il était 23h45. Le ciel était obscur, mais éclairé par les rayons de la lune qui resplendissaient dans le ciel. Le vent soufflait si fort que les branches des arbres se chevauchaient et perdaient leurs feuilles qui tombaient par terre. On pouvait sentir l'herbe fraîche et l'odeur des parterres de fleurs. Devant le Muséum d'histoire naturelle du Jardin des Plantes, la statue du chevalier de la Marque surplombait la place. Cette statue représentait un chevalier assis, les bras croisés, magnifique. Le musée, qui était immense, avait une façade qui rappelait un château luxueux. Les allées étaient délimitées par de petites rambardes. Il était tard et il n'y avait personne à l'horizon, dans le parc. C'était désert, hormis le peu de voitures qui circulaient sur les routes dont on entendait le moteur tourner. L'humidité se faisait de plus en plus ressentir, vu la froideur qu'il faisait. Autour du muséum, il y avait d'autres bâtisses, toutes aussi grandes les unes que les autres, avec des façades toujours aussi splendides.
À l'intérieur du Muséum d'histoire naturelle du Jardin des Plantes, la salle de l'évolution est un hall d'exposition des espèces. Cette salle était impressionnante car elle avait un plafond en verre. Il y avait des têtes de squelettes, de dinosaures ou de ptérodactyles, qui d'ailleurs avaient de grosses dents pointues. Il y avait des vitrines avec des os ou de vastes autres choses. Cela avait une odeur de bois et de renfermé. Sur les côtés de la pièce, les vitrines étaient remplies de fossiles et de vieilleries. Les allées étaient très petites car les squelettes prenaient de la place. Les reflets de la lune pénétraient la pièce et lui donnaient un aspect différent. Les squelettes étaient poussiéreux. Ils avaient tous des tailles et des formes différentes. Des grandes et des petites, des gros et des maigres, des becs et des cornes. Aucun ne se ressemblait. Il n'y avait pas un bruit, à part le bruit du vent qui claquait contre le plafond. Puis, sur le côté, on pouvait apercevoir un œuf assez enrobé, d'une assez grande taille, qui était dans une des vitrines. Puis, il eut quelques petits craquements.
Soudainement, un léger choc frappa la coquille de l'œuf de l'intérieur. Puis, il y en eut un nouveau, quelques secondes plus tard, qui, cette fois, dessina de légères fissures à la surface rugueuse de l'objet en vitrine. Comme il continuait à se craqueler, l'autre coup fit tomber un petit morceau de l'œuf qui dévoila un œil totalement noir. La créature qui se trouvait à l'intérieur redoubla alors d'efforts et en peu de temps, elle brisa totalement le haut de la coquille. Elle put ainsi faire jaillir sa tête. À l'aide de ses griffes, l'animal continua la destruction de l'œuf qu'il avait abrité pendant plusieurs millions d'années. Rapidement, il put faire sortir l'intégralité de son corps hors de la coquille. Il avait un long bec pointu, dissimulant ses nombreuses dents pointues. Sa peau, de couleur marron, était sèche et poreuse. Il ressemblait à une espèce de monstre tout droit sorti du cauchemar d'un enfant. D'un violent coup qu'il donna à l'aide de son bec, il brisa la vitrine qui protégeait, il y a encore quelques minutes, l'œuf dans lequel il se trouvait. Des morceaux de verre tombèrent en fracas sur le sol. La créature profita de la brèche qu'elle avait créée pour s'échapper du présentoir dans lequel elle était exposée peu de temps auparavant. Elle quitta ainsi sa prison de verre, libérant au passage un cri strident qui résonna dans la grande salle de l'évolution.
Oh !
Elle déploya ensuite ses grandes ailes et prit lentement son envol dans la grande salle pour aller vers le plafond. Elle fonça alors sur le plafond vitré, à grande vitesse, et fit éclater une partie du plafond. De gros morceaux de verre tombèrent sur le sol dans un lourd fracas. La créature continua ainsi de prendre son envol dans le ciel ténébreux de Paris, plongé dans la nuit. Elle commença alors à s'éloigner du muséum d'histoire naturelle du Jardin des Plantes. Un nouveau cri retentit alors dans l'obscurité froide, celui du ptérodactyle.
Au même instant, à Lyon, un vieil homme, se nommant Georges, mal habillé, bougeait et reproduisait les mêmes mouvements que l'envol du ptérodactyle. Il était dans une bibliothèque, dérangé, où traînaient livres, journaux et photos. Peut-être était-ce un scientifique qui contrôlait le dinosaure.
La nuit au commissariat était un endroit très sombre et froid. À cette heure-ci, il ne se passe pas grand-chose. La lune perce les fenêtres en verre. Le sol y est grinceux. À chaque pas résonne un sourd couinement. Il ne faut pas vouloir être discret. Des officiers s'occupent de traiter les plaintes, d'autres trient les mandats d'arrêt. Sur un banc, nous pouvons apercevoir un homme et une femme qui semblent tristes, mécontents. On pourrait deviner que cette femme est semblable à une prostituée. L'homme pose un regard de dégoût sur le corps de cette dame. À 2 mètres, la bouilloire crépite et l'eau boue, avec ses innombrables bulles d'eau qui éclatent une à une. C'est l'heure du café ou du thé, à chacun sa préférence. Au loin, 2 officiers se préparent à partir, faire leur ronde du soir et veiller sur ce quartier habituellement calme. 1h03, au poste de police.
Brigadier, on l'a trouvé dans la rue qui gueulait comme un âne. Je crois qu'il en a un sérieux coup dans le nez.
J'ai pas vu.
Avance.
J'ai pas vu. J'ai été attaqué par une sorte de gros oiseau rouge avec un bec plein de dents. Je vous le dis, chef, j'ai pas picolé.
Mais oui, t'as à jeun. Allez, foutez-moi ça au bloc.
C'était une bête affreuse, je vous raconte pas des bobards, chef. Pour une fois que vous ferez quelque chose d'utile en courant, c'est pas ce bestiau. Si c'est pas à dégoûter de payer des impôts, de voir ça. Ah, les cognes, je te jure.
Il était environ 19h30. Un homme, prénommé Monsieur Blood, se trouvait dans sa pharmacie. Il s'apprêtait à fermer. Il sortit dehors, tenant un bâton dans sa main gauche, et le leva pour attraper son rideau de fer. Soudain, il entendit un bruit étrange derrière lui. Il s'interrogea, mais continua à descendre son rideau. Quand il se tourna, une bête était devant lui, il poussa un cri.
Au même instant, toujours à Lyon, Georges le savant tenait sa tête entre les mains. Il paraissait angoissé et ne contrôlait plus du tout le dinosaure. Après cet incident, on pouvait lire dans le journal un article dans les nouvelles diverses. Étrange incident que l'on serait tenté de mettre au compte d'un abus de boisson alcoolisée si Monsieur Pott n'avait pas au visage de profondes traces de griffures.
La suite dans le prochain épisode
de La Bête à Paris.
Avec un scénario de
Georges Paul Sly.
C'était
Les Philoméas.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les Scary Stories, un groupe de seconde 8 du lycée Jean Monnet, vont vous présenter une histoire intitulée Un étrange incident, racontée par 3 narratrices et un narrateur, Laurine, Bédana, Camélia et Rodrigue, par Aurélien, qui jouera le rôle du brigadier, Loïc, qui interprétera le ptérodactyle et le pharmacien, Rodrigue, qui sera le savant fou, Dylan, qui jouera le rôle du SDF, Charlotte qui sera la gendarme.
Passez un bon moment.
Cette histoire débute à Paris le 4 novembre 1911 à 23h45. On était dans le Jardin des Plantes. Il faisait nuit. Le ciel était parsemé d'étoiles, il faisait froid et calme. Aucun bruit ne venait briser le silence nocturne, mis à part le hibou qui sonnait dans un arbre voisin. Devant le jardin des plantes, on voyait une haute statue représentant le chevalier de Lamarque. De très belles plantes séjournaient en ce lieu. Le jardin était très grand, on remarquait les bâtiments de musée, les plantes, les fleurs, les arbres, les structures ainsi que les éclairages. Il n'y avait personne ce soir, mis à part le hibou. Les bâtiments étaient hauts et larges. Il y avait des fenêtres, de grandes portes, ainsi que de très belles moulures étaient incorporées à ces larges murs de pierre.
À l'intérieur du musée, régnait un silence à vous donner les frissons, ce qui étant sans doute dû à tous ces ossements d'animaux. Il y avait un plafond de verre qui était éclairé par la lumière des étoiles. De part et d'autre de la pièce, des galeries étaient remplies de minuscules ossements qui contrastaient avec des gigantesques maquettes de dinosaures dépourvues de chair. À première vue, la salle semblait restreinte au niveau de sa superficie à cause de tous ces animaux qui semblaient prendre beaucoup de place. Il y avait aussi des animaux ou des reproductions en vitrine, mais il y en avait une en particulier qui attirait l'attention. C'était un gigantesque œuf posé sur un socle. On pouvait savoir de quel œuf il s'agissait par la pancarte qui donnait des informations. Sur ce petit écriteau était écrit « œuf de ptérodactyle, fin du Jurassique, 136 millions d'années ». Soudainement, dans la pénombre au milieu de tous ces ossements, un toc-toc se fit entendre de la vitrine où se trouvait un œuf de ptérodactyle.
Dans le silence pesant de la pièce, dans la salle du Muséum d'Histoire Naturelle, il y eut un craquement, provenant de l'œuf de ptérodactyle. L'œuf se brisa et on put apercevoir un œil dont l'iris noir scintillait et semblait guetter avec intention les moindres mouvements avant de pouvoir s'extirper de sa coquille. Ne voyant aucun signe de danger, l'animal détruisit avec confiance son abri. Il était dit avec véracité, comme pressé de sortir. C'était un animal de petite taille qui ressemblait à un oiseau. Il avait une grande ossature, mais celle-ci semblait frêle par la finesse et il était dépourvu de plumage. Il avait un long bec dont les dents pointues et tranchantes brillaient dans la pénombre. Ses yeux étaient noirs, profonds et sa vue était extrêmement développée. Son ossature était frêle. On aurait dit un squelette semblable à un fossile. Sa peau était verte, sans écailles, mais elle semblait lisse. Quant à ses griffes, elles étaient pareilles à des lames acérées et aiguisées. Il semblait vorace et avide de liberté. C'est pourquoi, après cette sortie de sa coquille, il prit directement son envol en cassant une vitre et s'envola dans le ciel étoilé de Paris.
Au même moment à Lyon, un homme d'aspect malingre se tenait dans un cabinet de travail, les bras en suspension, tel un oiseau en riant. La pièce semblait fort petite tellement elle était en désordre. Des livres s'empilaient par milliers, certains étaient ouverts, sans doute dû à leur récente utilisation, et d'autres contenaient des marque-pages. Contre un mur, au fond de la pièce, il y avait une bibliothèque avec un charme désuet du 19e siècle. Les livres étaient bien rangés. Devant un grand miroir, sur une sorte de table, se trouvait un buste de femme qui fixait l'homme. Une lampe à naphte éclairait faiblement la pièce, de sorte qu'un côté était sombre et l'autre lumineux. Sur le bureau, un encrier peu usité était placé à côté d'une pile de livres. On pouvait apercevoir le dossier d'une chaise au bois d'acajou derrière ce personnage patibulaire, debout, les bras pendants tel un mort-vivant à une heure aussi tardive. Il était vêtu d'un costume chic à trois pièces, c'est-à-dire d'un pantalon, d'un gilet et d'une veste. Sur son gilet, au niveau de son abdomen, le gousset de sa montre pendait. Il possédait une mâchoire difforme avec une bouche partiellement édentée. Ses yeux noirs, petits et vifs, étaient a priori concentrés sur quelque chose d'indiscernable et ne sillaient pas. Il avait des poches et des cernes sans doute creusées par la fatigue. Son nez était fin, quasi inexistant. Ses oreilles étaient bigrement grandes et semblaient se détacher petit à petit de son visage creux et grêle. Quant à son crâne, il était dépourvu de pilosité, et sur son front, des rides formaient des plis comme s'il était concentré. Il était fort étrange, mais cependant, il semblait joyeux.
Oh, 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 oh.
Il était 1h30 au poste de police du 12e arrondissement. Tout était calme. Deux personnes étaient assises sur un banc et semblaient attendre quelque chose. Derrière eux était accroché un panneau en liège avec plein de papiers attachés dessus. Un peu plus loin, sous une lampe à huile, deux autres policiers discutaient. Ils étaient près des fenêtres. Celles-ci étaient fermées et grillagées, mais on pouvait entendre le vent souffler. Sur le mur, il y avait une horloge et un autre tableau de liège avec plusieurs autres informations concernant le poste. Collé au mur, il y avait un vieux porte-manteau en bois avec un chapeau et un manteau accroché. Il y avait aussi un chauffage au milieu de la salle avec une cafetière en train de chauffer. Près du bureau, un autre policier attendait. Derrière ce bureau, un policier écrivait sans doute un rapport sur une machine à écrire avec une cigarette dans la bouche. Un autre, qui semblait être le chef, regardait par-dessus son épaule. Sur le bord du bureau, qui séparait les deux personnes sur le banc, il y avait un livre ouvert, un panneau, un encrier et une lampe. Soudain, deux policiers arrivèrent avec sous le bras un SDF. L'un d'eux dit
« Brigadier, on l'a trouvé dans la rue qui gueulait comme un âne. Je crois qu'il en a un sérieux coup dans le nez. »«
J'ai pas bu !»
L'autre policier, ne laissant pas le SDF finir de parler, reprit de plus belle.
« Avance !»
Le SDF, que rien n'arrêtait, reprit sa phrase.
« J'ai pas bu. J'ai été attaqué par une sorte de gros oiseau rouge avec un bec plein de dents. Je vous le dis, chef, j'ai pas picolé. »
Le brigadier, qui ne voulait pas en savoir plus, dit tout simplement
« Mais oui, t'es un jeune. Allez, foutez-moi ça au bloc. »
Une fois derrière la grille, le SDF souffla une dernière fois.
« C'est une bête affreuse. Je vous raconte pas des bobards, chef. Pour une fois que vous feriez quelque chose d'utile en courant après ce bestiau. Si c'est pas vous dégoûté de payer ses impôts de voir ça, ah, elle est conne, je te jure. »
Mais déjà dans le commissariat, plus personne ne l'écoutait.
Le soir suivant, à 19h30, Georges Plot s'apprêtait à fermer sa pharmacie. Il était grand, brun, avec une moustache, des lunettes et de grandes oreilles. Il était vêtu d'une blouse blanche. Georges Plot commençait à descendre le store de sa pharmacie quand il entendait un bruit. Il se retournait et attendait à nouveau d'entendre ce bruit étrange. Georges se retournait et se trouvait nez à nez avec un monstre. C'était le ptérodactyle. Le ptérodactyle commençait à attaquer le pauvre pharmacien. Georges émit un léger cri. Au même instant à Lyon, le savant fou poussa un cri qui le fit sursauter.
Non !
Il se rendait compte de l'agression que venait de faire le ptérodactyle.
Dans le journal figurait une nouvelle diverse. Le titre s'intitulait « Un étrange incident ». Quelques lignes expliquaient l'incident de la veille. Monsieur Georges Plot, pharmacien de la rue Vaugirard, prétend avoir été agressé par un étrange volatile. L'animal, aussi gros qu'un chien, selon les dires du pharmacien, l'aurait attaqué alors qu'il baissait le rideau de fer de son officine. Étrange incident que l'on serait tenté de mettre en compte d'un abus de boisson alcoolisée si Monsieur Plot n'avait au visage de profondes traces de griffures.
Chers auditeurs, que va devenir le ptérodactyle perdu en plein XXe siècle? Comment expliquer l'éclosion de ce dinosaure à notre époque? Quel rôle a joué le savant fou dans cette ébouriffante aventure? Vous le saurez en découvrant l'album de Tardi, Adèle et la Bête, bande dessinée des éditions Casterman. C'était le groupe Scary Story de seconde 8 du lycée Jean Monnet. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie sur RVM 93.7, Radio Valois-Mulsien, la radio qui vous écoute. C'était Charlotte.
Au revoir.
Laurine.
Au revoir.
Aurélien.
Au revoir.
Bédana.
Au revoir.
Camélia.
Au revoir.
Dylan.
Au revoir.
Rodrigue.
Au revoir.
Eloï.
Et
Asia.
Au revoir.
Au revoir.